Bonsoir. Le nombre de décès de la maladie à virus Ebola vient de dépasser la barre de 500, 6 mois après le début de cette épidémie dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, selon les chiffres officiels. En réaction, la coordination de la société civile de Beniville appelle la population des zones affectées par la maladie à virus Ebola à la conscience pour que cette épidémie soit maîtrisée dans tout au plus 3 mois. Comment expliquer cette situation? C'est le thème du dialogue entre Congolais de ce mardi 12 février 2019. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Maître Sylvain Kanyamanda, maire de la ville de Butembo, Nord Kivu. Maître Sylvain Kanyamanda, bonsoir.
Bonsoir, madame Kelly Kouté.
Paul Moindo, il est député national élu du territoire de Beni au Nord Kivu. Il est porte-parole du parti politique RCD-KML. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Et docteur Michel Yao, responsable des opérations d'urgence pour l'OMS Afrique et coordonnateur de la riposte contre Ebola pour l'OMS au Nord Kivu et en Ituri. Docteur Michel Yao, bonsoir.
Bonsoir.
Merci, parce que vous êtes très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Patrick Mbouli Kitanga, depuis Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Au regard de cette situation sanitaire dramatique dans cette partie du pays, qu'est-ce que les autorités attendent pour décréter l'état d'urgence, car la situation ne cesse de se détériorer et le nombre de morts ne fait qu'augmenter? Merci de nous suivre partout en RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radio.org. Capi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Radio Capi. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
En Nord Kivu, la coordination de la société civile de Beniville appelle la population des zones affectées par la maladie à virus Ebola à la conscience pour que cette épidémie soit maîtrisée dans tout au plus 3 mois. Au cas contraire, le président de cette structure citoyenne, Kizito Bin Angi, craint qu'avec l'allure actuelle et les résistances communautaires, il y ait risque de voir cette épidémie dépasser une année avec l'évidence de compter des morts par milliers. Mais monsieur Kizito Bin Angi est au micro de Christian Mapendanou.
Nous sommes à plus ou moins 500 morts et nous sommes dans presque le 5e, 6e mois. Si la population ne fait pas attention, nous risquons de faire toute une année dans cet état d'Ebola. Et quand vous allez faire les calculs maintenant, une année après, nous risquons de perdre beaucoup de compatriotes alors que la vie humaine est sacrée. Et donc, malgré les efforts que le gouvernement a mis avec ses partenaires de santé, on a mis des moyens, de l'argent, des personnels pour lutter contre cette maladie à virus Ebola. Mais malheureusement, cette maladie continue à ravager les gens. Et donc, nous pensons que c'est notre conscience attaquée population. Il faut que la conscience puisse nous travailler. Tout le monde doit s'engager. Des résistances de certaines personnes que nous demandons vraiment de ne plus faire cette résistance pour que nous puissions voir dans peu de temps ou 3 mois maximum, nous travaillons ensemble pour que nous puissions finalement arriver à bouter hors définitivement cette maladie à virus Ebola.
C'était là monsieur Christian Kizito Bin Angi de la société civile de Beniville. Maître Sylvain Kanyamanda, je rappelle que vous êtes maire de la ville de Butembo. Au Nord Kivu, comment vous expliquez cette situation? Malgré les moyens mis par le gouvernement, on n'arrive toujours pas à éradiquer cette maladie.
Oui, merci beaucoup madame journaliste. Nous félicitons d'abord et remercions les coordonnateurs de la société civile de Beni de pouvoir finalement se prononcer au sujet de cette épidémie qui ravage notre région ici. Alors, c'est vrai que le gouvernement a déjà déployé des moyens, les partenaires sont vraiment sur le terrain pour voir dans quelle manière nous pouvons éradiquer cette maladie. Mais sur le terrain, nous pensons que le comportement de la population n'est pas la même partout. Parce que si vous passez en revue toutes les épidémies, l'épidémie à virus Ebola qui est arrivée dans tous les épisodes connus, parce que nous sommes à la dixième épisode ici dans le Nord Kivu, la population ne s'est pas comportée de la même manière. Et aujourd'hui, Ebola a venait d'accéder dans des cités, dans des agglomérations qui sont aussi vastes, dans des populations qui comptent plus ou moins 500, 1 million, 1 million et plus d'habitants. Et pour nous, c'est déjà la population est vraiment exposée par le fait de cette masse de la population qui est concentrée à un même endroit, dans une même zone. Et ça fait que l'éradication en même temps de cette épidémie doit effectivement prendre le temps et doit nécessiter l'implication de tout le monde. Le problème, c'est qu'au début et au départ, les gens pensaient qu'il n'y a que les experts de la riposte qui doivent apporter solution, qui doivent combattre cette maladie. C'est au fur et à mesure, avec le temps, que la population maintenant commence à comprendre qu'elle doit s'engager. Elle doit s'engager parce que lorsqu'elle s'engage, automatiquement, ça rend le travail facile à tous les acteurs, à tous les experts qui sont lancés sur le terrain. Voilà pourquoi nous remercions l'équipe de la coordination de la société civile de Beni de pouvoir se prononcer et de pouvoir appeler à la population de pouvoir se prendre en charge afin d'éradiquer cette épidémie.
Monsieur le maire, pourquoi il y a cette réticence de la part de la population? Qu'est-ce qui explique cette réticence?
Oui, la réticence est due à plusieurs raisons. La première raison, elle est culturelle. C'est-à-dire, ici, comme chez moi à Boutembo, la population a tendance à croire plus aux rumeurs qu'à la réalité. Ça, c'est un problème. Le deuxième problème, nous pouvons dire aussi que sur le terrain, vous savez qu'il y a au mois de décembre, le ministère de la Santé avait facilité la population de Boutembo de pouvoir accéder aux soins gratuits. Vous voyez, lorsqu'il y a déjà les soins gratuits, tous les hôpitaux, toutes les structures de santé n'étaient pas concernées par cette gratuité-là. Et cela a créé déjà les premières réticences au niveau des acteurs de santé qui sont dans des structures privées qui n'étaient pas concernées par cette gratuité-là. Et déjà, ces gens-là, pour besoin d'argent, ils étaient obligés par moment de bloquer certains malades dans leur structure afin d'avoir de l'argent et dire des histoires aux malades. Par exemple, dire aux malades que voilà les soins que moi je vais vous donner ici, que je vais vous administrer ici, sont originaux, mais les médicaments que les autres vont vous donner, la gratuité là, ce sont des médicaments qui ne sont pas d'usage. Et ça a créé déjà la première réticence au niveau même des personnels de santé qui n'étaient pas bénéficiaires de cette gratuité des soins dans la région.
Alors, puisque vous étiez au courant de cette situation par rapport à ce qui se passait dans les hôpitaux, mais quelles sont les mesures prises pour justement sortir de cette situation-là?
Oui, donc aujourd'hui, nous devrions plutôt renforcer la sensibilisation dans la population, dans toutes les couches. Il faudrait que nous arrivions à convaincre les acteurs sociaux, les acteurs sociaux, les leaders communautaires de pouvoir s'impliquer afin de communiquer dans la langue locale l'existence effective de cette maladie. Et ça, vous comprendrez que lorsque vous comparez ce qui s'est passé en Équateur, c'était des agglomérations qui n'étaient pas aussi avec un taux démographique élevé. Mais aujourd'hui, à Boutembo, les gens sont confinés dans une entité et que la contamination des maladies est facile parce que les gens se croisent, les gens se rencontrent, les gens donc sont confinés et vivent le quotidien ensemble. Et c'est là la différence que nous pouvons marquer par rapport à cette situation ici que nous vivons aujourd'hui à Boutembo. Donc, nous, on ne doit pas baisser les bras. Avec toutes les raisons que je venais d'invoquer si haut, nous pensons que ça doit plutôt nous encourager parce que la riposte, maintenant nous avons la riposte contre la maladie Ebola et nous sommes en train, nous, en tant qu'autorité, de riposter contre les résistants de cette maladie.
Merci, Monsieur le maire Paul Mohindo. Je rappelle que vous êtes député national élu du territoire de Beni au Nord Kivu. Vous êtes également porte-parole du parti politique RCD KML. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes député, vous êtes le leader d'opinion. Comment vous expliquez le fait que cette maladie perdure dans cette partie de la RDC? 500 morts 6 mois après les débuts de cette épidémie. Comment vous expliquer ça?
Oui, je voudrais tout d'abord, encore une fois ici, présenter nos condoléances à toutes ces personnes qui se meurent par cette maladie, mais également de la sécurité. En fait, il faut considérer aujourd'hui que la résistance qui s'observe à Butembo et à Beni et partout là-bas, c'est une résistance qui est normale. Moi, je la considère normale parce que tout d'abord, nous sommes dans une zone particulière. C'est la zone où se vit l'insécurité depuis plus de 4 ans. Et puis, la maladie elle-même est une première fois que cette maladie s'observe dans cette zone-là. Et vous savez, Madame Kelly et tous ceux qui nous suivent, en fait, lorsque vous voyez l'équipe de l'Ebola, et lorsque surtout on doit venir vous prélever, faire des tests et tout, mais ces gens s'habillent comme pratiquement, personnes, des astronautes. Ça veut dire, de par même leur habillement, ça fait peur, vous voyez. Et donc, il y a tous ces aspects, au-delà de tout ce qui a été évoqué par Maître Sylvain. Donc, il y a l'aspect de la zone totalement insécurisée qui fait que ne comprenant pas la raison, n'est-ce pas, de toutes ces guerres, on a toujours tendance à se dire, bon voilà, c'est aussi une manière de tuer les gens, ça c'est de un. Mais aussi de deux, la nouveauté de cette maladie et dans cette zone. Il faut dire que les résistances n'ont pas simplement été observées à Butembo. Les résistances avaient été même observées à Mangina, qui était l'épicentre de l'Ebola. Moi, je me rappelle, lorsque j'étais en vacances parlementaires, c'était pratiquement au niveau de Makiki. La population à Makiki avait commis des dégâts jusqu'à chambarder le matériel du centre de santé de Makiki. Il y avait lutté M. Siwako qui était au point d'être molesté. Heureusement, la police était intervenue. Et là, on avait découvert qu'il y avait certains problèmes qu'il fallait résoudre. Alors, la résistance à Makiki, on l'avait adapté, nous avions écouté la population, moi-même j'étais descendu sur place, j'avais parlé avec la population, j'avais présenté ce qui était leur problème, et après tant, la population avait compris. Au niveau même de Mangina, il y avait aussi de problèmes, avec par exemple le fait que lorsque la maladie était apparue, on avait mis à quarantaine tout le personnel soignant, et ce n'était que de nouvelles personnes qui étaient là pour soigner les gens. Et les gens se disaient, mais comment comprendre que ceux qui nous soignent là, nous ne les connaissons pas, nous vous jamais vu, c'est là qui nous soignait habituellement, ils ne sont pas là et tout. Mais avec le temps, lorsqu'on avait décelé toutes ces raisons et on avait travaillé sur ces problèmes, mais la résistance, n'est-ce pas, a été disparue.
Et c'est un problème de méthodologie.
Aujourd'hui, à Mangina, on ne parle plus de l'Ebola. À Makiki, on ne parle plus de l'Ebola. Lorsque nous arrivons à Beni, il y avait des résistances, précisément à Ndindi. Il y avait des résistances, mais lorsqu'on avait travaillé sur, n'est-ce pas, la méthodologie, sur les causes, n'est-ce pas, de toutes ces résistances.
Vous avez fait quoi concrètement?
Bien sûr, par exemple, je vais vous donner les cas de Makiki. À Makiki, on se disait qu'il y avait beaucoup de morts. On se disait qu'à Makiki, on vaccinait les gens avec un autre vaccin. Et puis, nous avions demandé à ce que on puisse rapprocher, ce que ils appellent le CTE, proche de la population. Cela a été fait et c'était ça la demande la population, et ça avait créé, n'est-ce pas, l'appropriation de la population. À Mangina, on avait résolu la question du personnel soignant. Il y avait les problèmes, par exemple, on ne pouvait pas s'approcher de malades, et on ne pouvait même pas les amener à manger, mais on avait trouvé des solutions à cela. Je sais qu'à Butembo aussi, au début, c'était ça. On avait pris le personnel de Beni, qui était monté à Butembo, et c'était pratiquement aussi de nouvelles personnes. Mais moi, je crois que dire que l'Ebola n'existait pas, c'est trompé, et dire qu'il y a une résistance qui fait que l'Ebola va persister, c'est aussi se tromper. Il faut.
Comment ça, c'est se tromper?
Effectivement, parce que moi je crois.
Si comme les gens ne se font pas vacciner, si les gens qui sont atteints par la maladie refusent d'être vaccinés et entrent en contact avec d'autres personnes, la maladie va résister.
L'Ebola va se terminer dans notre zone. Comme l'Ebola a pris fait à Mangina, comme l'Ebola a pris fait à Makiki. Nous sommes effectivement en train de nous mettre, n'est-ce pas, ensemble avec toutes les équipes de l'Ebola pour pouvoir sensibiliser davantage, n'est-ce pas, la population. Mais il faut relever des aspects qui sont également d'ordre organisationnel. Parce que la transmission aujourd'hui, s'il y a aussi notre résistance, il faut dire que la grande résistance qui s'observe aujourd'hui à Butembo et qui s'était également observée il y a peu au niveau de Beni, c'était dû au report des élections. Lorsqu'on avait reporté les élections dans cette zone-là, à Beni, Butembo, Beni territoire et Yumbi, mais la population avait cru que l'Ebola était un motif, n'est-ce pas, politique pour pouvoir les empêcher de ne pas participer au vote. Et cela a eu, n'est-ce pas, à simplifier. Comme le maire l'a bien si dit, et comme notre saison là, ce sont des zones où les rumeurs se répandent plus, ce sont ces rumeurs qui avaient beaucoup circulé, mais nous passons aujourd'hui qu'au fur et à mesure que le genre, la sensibilisation s'accentue, les gens sont en train de comprendre et nous allons accentuer la sensibilisation, mais on va revenir sur d'autres aspects techniques pour pouvoir améliorer, n'est-ce pas, ces techniques de sensibilisation.
Merci Monsieur Paul Moindo. Docteur Michel Yao, responsable des opérations d'urgence pour l'OMS Afrique et coordonnateur de la riposte contre Ebola pour l'OMS au Nord Kivu et en Ituri, docteur Yao, vous, comment vous expliquez ce cas d'Ebola qu'on n'arrive pas à éradiquer dans les provinces du Nord Kivu et Ituri?
Merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous donnez. Malheureusement, nous déplorons énormément de morts. Cette épidémie, on pourrait dire, un peu trop durée. L'épidémie de la maladie à virus Ebola est une épidémie qui se passe dans les communautés parce que les principales voies de contamination, c'est surtout des personnes qui prennent soin de leurs parents et ou lors des enterrements par la manipulation de corps contaminés. Donc c'est une maladie essentiellement communautaire et la difficulté vient du fait que tout ce qui entoure les rites funéraires sont fortement ancrés dans la culture des populations et c'est là l'un des moyens de prévention malheureusement d'Ebola où il faut s'assurer que les personnes ne se contaminent pas en faisant l'enterrement sécurisé et digne, l'aspect digne pour tenir compte des cultures, mais c'est de là que viennent en fait ces résistances des personnes qui voient par exemple les parents être pris par des professionnels habillés de façon étrange et donc cela nécessite en fait une bonne sensibilisation et les expériences passées en Afrique de l'Ouest notamment nous ont beaucoup appris et donc nous utilisons les anthropologues, nous utilisons des sociologues pour mieux faire passer le message. Mais dans le contexte au Nord Kivu et en Ituri, malheureusement, ces activités-là rencontrent beaucoup, beaucoup de résistance et on a des professionnels qui sont blessés, on a des voitures qui sont caillassées et c'est là vraiment l'une des principales difficultés.
Est-ce que c'est pas le moment, docteur Yao, est-ce que ce n'est pas le moment, il n'est pas temps, comme l'a dit le député Paul Moindo, de changer de méthodologie, parce qu'apparemment, le plan actuel de riposte n'est plus efficace.
La méthodologie, nous sommes assez flexibles, hein. Nous changeons, nous apprenons continuellement de cette expérience. Le député a mentionné Ndindi. Ndindi, c'est pratiquement la résistance qui a changé toute la progression de l'épidémie. C'est à partir de la résistance Ndindi que les cas sont partis dans diverses directions. Et donc, nous utilisons tous les moyens. Nous utilisons les communautés, nous approchons ceux qui résistent, nous essayons de les sensibiliser. Et en Ndindi, par exemple, la communauté a fini par mettre en place un comité de réponse à l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Nous avons eu un pic à la fin du mois de septembre à Beni et nous avons réussi. Donc c'est une stratégie qui réussit, mais c'est une stratégie qui prend du temps. Malheureusement, avec Ebola, le temps compte. Et en ce moment, là où se trouve le problème, c'est notamment Butembo-Katwa. Et comme le maire l'a dit, nous travaillons avec toutes ces autorités, mais malheureusement, il y a des groupes de résistance. Pas plus tard que hier, nous avons eu un agent de santé qui a été tabassé. Il est rentré à l'hôpital dans le coma. Et donc, face à ces difficultés-là, nous lançons vraiment un appel à toutes ces autorités religieuses, coutumières, pour pouvoir sensibiliser les populations. Sans la participation de la communauté, il est difficile d'arrêter une épidémie de la maladie à virus Ebola. Parce que les populations qui cachent les cadavres, des populations qui ne se soumettent pas au contrôle régulier, au suivi de contact, qui est un élément essentiel pour détecter très tôt la maladie, parce que maintenant nous avons des opportunités de traitement. Depuis le début de la maladie, il y a près de 277 personnes qui ont été guéries. On peut en guérir à condition qu'on arrive très tôt à l'hôpital. Et pour ce faire, il faut absolument qu'on accepte de se faire suivre. Malheureusement, les contacts fuient, ils vont dans diverses directions et on ne les retrouve qu'à l'état de malades graves ou bien à l'état de personnes décédées.
Alors,
ces derniers temps, la plupart des cas que nous trouvons sont malheureusement des cas de personnes qui décèdent dans les communautés.
Docteur Yao, nous avons appris, on a reçu des appels des populations de Beni, Butembo et même Ituri qui nous disent que lorsqu'ils viennent pour les vaccins, on leur dit que ce n'est pas gratuit, ça se marchande. Comme ils n'ont pas d'argent, ils préfèrent rentrer chez eux et ne pas se faire vacciner. Est-ce que vous confirmez cela?
Tous les services d'Ebola sont totalement gratuits. Et même le ministère de la Santé a déclaré dans les zones Ebola les soins de santé gratuits. Donc je voudrais ici dire à toute la population que tous les services d'Ebola sont gratuits. S'il se trouve que des personnes mal intentionnées mentionnent que cela est à payer, ils peuvent vraiment nous contacter en utilisant aussi les numéros que nous avons distribués pour les alertes. Et ceci, nous prendrons les mesures nécessaires, bien sûr en collaboration avec les autorités nationales. Le vaccin est totalement gratuit.
Merci.
Mais par rapport au stock mondial que nous avons, nous privilégions des personnes qui ont été en contact avec des malades, ainsi que leurs proches voisins, et nous privilégions aussi le personnel médical.
Merci, docteur. On va revenir.
C'est un vaccin qui ne peut pas être encore donné à toute la population.
Merci, docteur. On vous garde encore dans cette émission. Le temps pour nous de prendre cette réaction qui nous vient de Lubumbashi pour Maître Sylvain Kanyamanda.
Loribasa depuis Lubumbashi. À mon avis, cette lugubre situation témoigne la négligence des autorités congolaises dans la lutte contre cette maladie d'un côté, et de l'autre côté, l'inconscience totale de certains jeunes qui sont manipulés par quelques politiciens pour dire un non catégorique au traitement donné par le médecin approprié comme pour la lutte contre Ebola, soit des lapidés chez les amis. Je pense que notre gouvernement devrait s'impliquer corps et âme pour combattre comme il faut cette maladie à virus Ebola qui tue journellement sans pitié nos compatriotes de Nord Kivu et du Touré.
Monsieur le maire, cet auditeur parle des négligences des autorités.
Oui, merci beaucoup. Je salue l'auditeur en passant. Je ne pense pas et je ne crois pas ce qu'il est en train d'affirmer par rapport à négligence, parce que le gouvernement, comme l'autorité centrale, a déjà eu à allouer des moyens pour que nous puissions être capables de lutter contre cette épidémie. C'est déjà une marque d'engagement, une marque de responsabilité en tant qu'autorité de pouvoir protéger sa population. Donc pour ça, on ne peut pas débattre autour de cette question-là, étant donné que les moyens sont déjà là. On ne voit pas en quoi il peut y avoir une négligence.
Est-ce que vous appuyez la société civile dans sa démarche de sensibilisation?
Oui, mais comment? C'est pourquoi au début, quand j'ai commencé, j'ai déjà remercié et félicité la coordination civile qui s'est prononcée finalement, parce qu'il faudrait déjà que, dès le départ de l'avènement de cette épidémie, que chaque responsable, chaque leader puisse se prononcer. Effectivement, c'est ce qui nous pose problème, comme à Butembo, quelqu'un qui se dit député et qui dit que la maladie n'existe pas. Et que ça, c'était déjà une mauvaise base, un mauvais départ par rapport à l'appropriation de cette riposte par la population et que nous dénonçons. Aujourd'hui, nous souhaiterions même que la même personne même député, puisse maintenant déclarer le contraire, puisse dire à la population la vérité, parce qu'il y en a de ceux-là qui continuent à croire à ce que lui avait inoculé dans l'opinion au niveau de la ville de Kitembe. Et nous remercions en passant l'honorable Paul Moïse, effectivement, il avait déjà mis la main sur la pâte. Voilà qu'au niveau de Ndimbi, au niveau de Mangina, avec leur contribution, il y a déjà, il y avait eu, effectivement, une évolution et on a eu à bloquer la chaîne de contamination de ces virus Ebola dans ce coin-là. À Butembo, ce qu'il nous reste à faire, nous sommes en train de travailler localement. Il y a eu des mesures que nous avons eu à prendre. Nous avons signé des arrêtés pour organiser, pour donner la ligne comment la population devra se comporter afin d'éradiquer cette maladie. Et que pour nous, ce qui nous reste, effectivement, la population commence à comprendre. Nous avons 4 communes en ville de Butembo. Et dans 3 communes, en tout cas, la situation est presque stabilisée. La population a compris. Nous ne restons qu'avec une seule commune et 4 quartiers qui présentent vraiment la résistance. Nous avons le quartier Mukuna, nous avons le quartier Wayene, nous avons le quartier Kamechimbonzo et le quartier Kimbulu. Ce sont les 4 quartiers et que nous avons déjà pris les dispositions utiles qui, même par contrainte, doivent être exécutées pour vue de récupérer les auteurs, quelques garçons, quelques fumeurs de chambre qui s'affichent dans la résistance et la réticence et qui mobilise la population par rapport à ça. Les enquêtes sont en cours pour les dénicher.
Quelles sont ces dispositions, demain, monsieur le maire?
Dès demain déjà, nous avons organisé, j'ai décidé de pouvoir organiser la réunion d'urbaine sécurité au niveau du quartier Rwanda, un des quartiers qui regorge les résistants. Et là, nous allons plus aller écouter la population, que cette population nous dise librement, sans tabou, les problèmes qui sont à la base, qui seraient à la base de cette résistance, de cette réticence. Et nous allons plus écouter afin de voir dans quelle manière nous pouvons assurer la population, nous pouvons garantir cette population, nous pouvons répondre à leurs préoccupations qui sillonnent que de rester dans les rumeurs. Ça, c'est dans la première mesure que nous prenons. Dès demain, nous allons délocaliser. On ne sera plus au bureau, nous serons sur le terrain afin d'écouter cette population. Donc, il y a d'autres mesures. Nous sommes en train de chercher tous les hôtels, tous les acteurs. Vous savez, ce sont des quartiers qui sont presque urbano-rurales, qui sont périphériques, territoires de Beni. Ce sont des périphériques qui gèrent des forces négatives. Et il y a toujours des réactions de ces éléments-là qui viennent intoxiquer les jeunes de la ville, des quartiers voisins, qui les incitent à se comporter de cette façon-là. Voilà, donc nous sommes en train de prendre des mesures coercitives qui vont permettre à ce que la riposte puisse travailler librement et pour que la population puisse comprendre que nous devons bloquer, nous devons freiner définitivement cette chaîne de contamination.
Merci.
Donc il y a déjà une évolution parce que sur 4 communes, nous restons avec une seule commune et 4 quartiers qui pose encore problème, et comme c'est déjà identifié, localisé, nous espérons que nous devons avoir foi de pouvoir, avec l'implication de tous les acteurs politiques, tous les acteurs civils, avec aussi civils, avec ce que Beni vient de faire, nous voudrions que Butembo aussi puisse emboîter les pas pour que nous puissions nous approprier cette réponse, pour que la population et la communauté puissent faire un engagement communautaire afin d'éradiquer cette maladie.
Merci Maître Sylvain Kania Manda. Monsieur Paul Mouindo, on a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Kolwezi dans la province du Lualaba.
Tout Mouindiroa à partir de Kolwezi. Avant d'appeler la population à une prise de conscience, je pense que les humanitaires, les ONG et même la société civile de Beni devraient d'abord, et comme intervenants, prendre conscience du marchandage qu'ils font de cette épidémie. Apparemment, ils veulent se créer de l'emploi et le financement derrière cette maladie, comme ils l'ont déjà fait avec le VIH-Sida, parce que plus il y a propagation et négligence dans l'éradication de cette épidémie, plus ils ont aussi besoin de financement, et plus le financement traîne, plus le nombre de morts augmente, et au finish, c'est la même population cible qui en paye les pots cassés.
Monsieur le député, marchandage de l'épidémie.
Vous savez, effectivement, il faut se dire que l'épidémie à virus à Ebola implique beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses et beaucoup de fonds et mobilise également beaucoup de personnel. Vous savez que, par exemple, aujourd'hui, il faut dire que c'est l'OMS qui s'occupe du vaccin. Donc, tout le vaccin qui est donné là, c'est l'OMS. L'UNICEF, à moins que je me trompe, s'occupe de la sensibilisation. Et vous avez le MSF qui s'occupe de choses, de centres de traitement d'Ebola et tout. Et bon, l'État congolais est là, il a donné son personnel. Et vous avez, par exemple, le médecin qui, ça dépend de catégorie. Il y a ceux qui touchent à partir de 150 dollars par jour. Il y a ceux qui vous touchent 100 dollars par jour, ceux qui vous touchent 50 et tout. Et il faut ajouter à cela, par exemple, ceux qui font louer leur véhicule, qui ont 100 dollars par jour. Vous avez toutes ces personnes qui logent tous ces gens. Et donc, vous trouvez que c'est vraiment une grande circulation de la masse monétaire dans ces zones-là. D'ailleurs, Maître Sylvain l'a soulevé, qu'il y a certains centres qui retenaient des malades. Parce que je me rappelle, au début, c'était lorsque on sent que dans votre centre de santé, il y a par exemple certains cas et tout, il y avait des financements qui étaient donnés. Et donc, très normal que l'on puisse penser qu'effectivement, c'est une affaire commerciale. Et tout le monde voudra bien que ça continue pour que, n'est-ce pas, on puisse se taper beaucoup plus d'argent. Mais je me dis que cela ne doit pas être l'objectif de tous ceux qui sont, n'est-ce pas, à entrer de soigner et qui sont dans la riposte. Je vois beaucoup de gens qui se font molester. Je vois des gens qui, n'est-ce pas, se donnent corps et âme. J'ai été sur terrain, comment je travaille. Je ne pense pas totalement que ça soit et que toutes ces personnes soient totalement animées par un but lucratif. Car bien sûr, il y a de l'argent dans cette histoire. Mais ça ne doit pas être ça l'objectif. Je crois qu'on doit plus focaliser tous nos efforts autour de problématiques importantes qui sont celles de savoir pourquoi est-ce qu'il y a résistance. Il y a quelqu'un qui a évoqué l'aspect de la vaccination. Il faut, par exemple, corriger cet aspect. Bon, je me dis, il y a, par exemple, des gens qui se font signaler que non, moi, j'ai été en contact avec telle personne, mais aussi pour avoir accès au vaccin, et ça pose, il faut prendre du temps, ça peut vous prendre un ou deux jours. Imaginez-vous quelqu'un qui s'est donné le courage, il arrive, il fait toute une journée, et puis, au même moment, il reçoit quelqu'un qui lui dit non, cette histoire est forte, c'est tout, et puis, le lendemain, il disparaît dans la nature. Vous savez, par exemple, qu'il y a aussi certaines personnes au sein de l'équipe soignante ou équipe de la riposte Ebola qui sont là, qui ne se sont jamais vaccinés. Et ça aussi, ça pose des problèmes. Donc, ce sont des aspects qui nécessitent non simplement qu'on sensibilise la population, mais je crois que le premier des sensibilisateurs sont ceux-là qui sont dans l'équipe de la riposte. Et ceux-ci doivent vraiment contrôler tout ce qu'ils posent comme acte et ne pas se considérer comme des policiers, n'est-ce pas, devant les malades. Parce que le médecin de l'OMS l'a relevé, celui avec qui nous débattons. Le patient, par exemple, lorsqu'il a été constaté qu'il est présumé il a, par exemple, de l'Ebola, la première des choses, il faut l'isoler. Et lorsque vous l'isolez, il faut que cette personne parvienne à vous dire que j'étais avec tel autre pour couper la chaîne. Et ça demande une négociation avec la personne. Et donc, il faut aussi se mettre dans l'état psychologique de la population qu'on veut soigner. Et parce que, par exemple, quand on est à Butembo, il faut comprendre l'état psychologique de cette population-là. Ici, par exemple, je ne voudrais pas à ce qu'on puisse utiliser la police pour, n'est-ce pas, arriver à prendre par force certains malades. Non, là, on va encore davantage éloigner les gens. C'est bien beau aujourd'hui que ça soit, par exemple, à Butembo, que la maladie soit localisée dans la commune de Katwa. Il faut aussi savoir comment cela est venu, mais également il faut se poser la question autour des centres de santé. Puisque il s'observe souvent que le malade qui provient des centres de santé de l'intérieur sont ceux-là souvent qui viennent contaminer les autres. Il y a un cas où un malade avait pratiquement passé un mois à l'hôpital, il était gardé par d'autres, et les infirmiers de l'intérieur ne sont pas totalement mieux outillés pour détecter directement que non, ça peut être un cas d'Ebola, parce que les signes sont presque les mêmes. Donc je crois que la sensibilisation doit se faire
et dans l'équipe soignante de la riposte d'Ebola, contre l'Ebola, mais également les acteurs politiques doivent également être intéressés, les leaders sociaux, ça doit être la même chose. On doit éviter aussi de politiser certains propos de certaines personnes.
Alors, je vais vous redonner la parole pour les solutions, honorable Paul Mouindo. Docteur Michel Liao, on a aussi une réaction pour vous qui nous vient du Kasaï Central.
C'est Christian Mwamba Tshibendi à Kananga, Kasaï Central. L'épidémie à virus la devient monotone en RDC par manque de certaines méthodologies suffisantes appliquées par l'équipe de riposte mise en place. Le gouvernement est intervenu avec les nécessaires, mais l'épidémie n'est toujours pas éradiquée jusqu'à ce jour. Il y a toujours les cas contacts et puis les cas suspects qui ne sont pas bien identifiés pour la prévention ou la prise en charge. À mon humble avis, la question que je pose est celle de savoir quand est-ce que l'épidémie peut-elle être déclarée éradiquée et quels en sont les préalables mis à place dans ce cas de Boa. D'autre part, il y avait les entrées et les sorties, la période pendant laquelle l'équipe de riposte était sur le terrain. Ne voyez-vous pas que c'est un aspect qu'il faut tenir en compte? Les frontières n'étaient pas fermées. Aujourd'hui, Ebola bat record. C'est parce qu'il n'y avait pas un bon recensement et une bonne sensibilisation dans cette partie du pays pour identifier toute personne suspecte, car un seul cas suffit d'affecter tout un pays, dit-on.
Docteur Yao.
Oui.
Vous êtes là? Vous avez suivi là la préoccupation ou les préoccupations de cet auditeur?
Oui. Oui, je suis ravi que le député qui a pris la parole avant a mentionné un peu une approche, l'approche qu'on adopte dans le cadre de l'épidémie à maladie et à virus Ebola. Donc il s'agit d'un patient et ce patient est touché par d'autres personnes et se contamine. Donc l'objectif, c'est d'abord, lorsqu'on a ce patient-là, de déterminer tous ceux qui ont été en contact avec ce patient. Et il faut les suivre pendant 21 jours pour détecter si ceux-là vont faire la maladie ou pas. Et maintenant, on a aussi une chance de les vacciner. Et cela nécessite l'adhésion complète de ces personnes-là. Et donc, si une personne vous dit, plutôt de dire que 10 personnes ont été en contact avec moi, dit seulement que j'ai eu seulement 2 personnes, il est difficile à l'équipe de déterminer les autres. Donc, cela nécessite une collaboration entière pour pouvoir déterminer l'ensemble de ces contacts-là, les vacciner et parmi eux, ceux qui feront la maladie, de pouvoir les traiter et les retirer de la communauté pour éviter toute contamination. Donc c'est ça un peu la base de la stratégie de cette réponse à l'épidémie. Malheureusement, ceci est difficile à faire. On rencontre énormément de difficultés à lister les contacts et lorsque les contacts sont listés, ils ne viennent pas à la vaccination. Il faut rappeler qu'il s'agit d'un vaccin qui n'est pas encore autorisé à être mis sur le marché, mais autorisé par un comité d'experts scientifiques avec le comité d'éthique de la République démocratique du Congo, mais qui nécessite le consentement de la personne. Donc si une personne dit non au vaccin, on ne peut pas administrer ce vaccin-là. La stratégie marche. On a contrôlé plus ou moins à Mangina, on l'a contrôlé à Komanda, on l'a contrôlé à Chomia, on l'a plus ou moins contrôlé à Beni, et comme le maire le disait, il reste que quelques quartiers. Mais ces quartiers-là, le dénominateur commun, ou bien le contexte qui empêche le contrôle total, c'est le manque d'adhésion des personnes concernées. Et donc, à la suite du maire, c'est vraiment dit qu'il ne s'agit pas seulement d'une affaire du personnel médical, mais il faut que tous les acteurs soient totalement mobilisés. Nous avons parlé des aspects financiers et je disais à Boutembo il y a 2 jours à une équipe qu'on formait pour l'enterrement sécurisé que si on ne met pas le cœur pour dire que je veux que cette maladie soit hors de ma communauté, si on pense seulement qu'à l'argent, ce serait difficile d'arrêter. On met les moyens parce que c'est une maladie dangereuse. On transporte des vaccins à moins 60, donc avec une logistique exceptionnelle qui coûte extrêmement cher. on utilise l'hélicoptère pour aller dans les villages les plus reculés. Tout ça pour dire on est totalement mobilisé pour éliminer cette maladie qui est dangereuse pour les communautés, pour la République démocratique du Congo, mais aussi pour la communauté internationale.
Docteur Yao,
cela exige vraiment une adhésion des communautés.
Alors, docteur Yao, il y a un auditeur qui a parlé de marchandage de l'épidémie. Comment vous lui répondez brièvement?
Les personnes qui travaillent dans l'épidémie sont aussi à risque, hein. Ils mettent leur vie à risque. On doit essayer de compenser le travail énorme que les personnes font. Ce sont des personnes qui travaillent 7 jours sur 7. Ce sont des personnes qui utilisent des motos pour faire des centaines de kilomètres par jour pour faire le suivi des contacts. Ce sont des personnes qui font face aussi à ce contexte particulier d'insécurité. Et donc, c'est juste une rémunération qu'on leur donne, mais l'élément essentiel, c'est surtout leur détermination à arrêter cette épidémie-là.
Merci.
Et je disais tout à l'heure qu'on doit transporter des vaccins à des températures extrêmes, et cela exige une logistique qui coûte extrêmement cher.
Merci, docteur Yao. On va vous redonner la parole pour votre conclusion. Monsieur le maire, maître Sylvain Kanyamanda, nous sommes presque à la fin de notre émission, puisque nous sommes dans la sensibilisation. Un mot peut-être à tous ces auditeurs qui nous suivent à Butembo, à Beni, en Ituri, par rapport à Ebola.
Oui, le mot important que je dois souligner à l'issue de cette émission, c'est de demander à la population de pouvoir faire un engagement communautaire afin de combattre et de couper la chaîne de contamination dans notre ville de Butembo, dans notre ville de Beni, dans notre territoire de Lubero et de Beni. Et que si jamais l'engagement communautaire n'est pas fait, nous risquerons d'observer un pire. Et pour nous rassurons cette population que toutes les équipes de la riposte sont disposés pour apporter un traitement efficace et conséquent à cette maladie, pour que cette maladie finisse, pour qu'on arrive à éradiquer cette épidémie dans notre région.
Merci, monsieur le maire. Paul Moindo, député national, conclusion en 30 secondes.
Donc, je voudrais dire que l'Ebola est une réalité et ça existe à Beni Butembo. Et la meilleure des choses à faire, c'est de tout faire pour ne pas être contaminé par cet Ebola. Et nous insistons beaucoup sur le mesure hygiénique. Et ici, nous appelons l'équipe de la riposte et les gouvernements congolais à doter davantage la population des savons, de tout ce qui peut permettre à ce que les gens se lavent régulièrement, parce que c'est un aspect important. Merci. Dans la riposte.
Merci, Paul Moindo. Docteur Yao, conclusion. Est-ce qu'à ce au niveau nous en sommes, on peut décréter l'état d'urgence en RDC par rapport à cette maladie?
Décréter l'état d'urgence, c'est trop dire, mais je dirais aussi que les communautés doivent absolument se mobiliser à tous les niveaux. On peut décider là où on est de dire que je veux la maladie hors de ma communauté. On a 819 cas, c'est trop. On a plus de 500 décès, c'est trop. On peut guérir, nous avons pu guérir près de 277 personnes. Nous avons maintenant des molécules qui donnent de l'espoir.
Merci.
Nous pouvons vacciner pour prévenir, mais il reste seulement que la population et que la communauté puissent s'engager, comme le maire l'a dit.
Merci, docteur Yao. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe. Guy Maté, Donald Madimba, sous la supervision de Pelle-Équipe et Lamondo, présentation et coordination, Kelly Nkouté. Merci à Jean-Noël Mokondo qui était à la prise de son. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.